réplique, lire le premier homme avec Raphaël Enthoven. Le 4 janvier 1960, Albert Camus meurt dans un accident de voiture à Villeblain, près de Montereau, dans l'Yonne. Il avait 47 ans. Dans sa sacoche se trouvait le manuscrit du premier homme. Ce texte a été publié en 1994 et ce fut un choc. Les lecteurs de L'étranger, de La peste, de La chute, du mythe de Sisyphe ou de L'homme révolté, qui croyaient tout savoir de Camus, découvrait, 34 ans après sa mort, son chef-d'œuvre. J'ai été moi aussi ébloui. Et ce qu'avait à mes yeux de plus émouvant, de plus déchirant, le premier homme, c'était moins son tragique inachèvement que son non moins tragique caractère inaugural. Camus revenait sur ses pas, et simultanément, il se déprenait de lui-même, c'est-à-dire de la pompe, qui selon Sartre lui était naturelle, comme du dépouillement trop concerté de l'écriture blanche. Sa prose s'est métamorphosée afin de restituer aussi complètement, aussi fidèlement que possible, la présence physique du monde dont il était issu. Je me suis dit le cœur serré en fermant ce livre, que Camus était mort alors même qu'il naissait littérairement à une vie nouvelle. À Raphaël Enthoven, qui connaît Camus sur le bout des doigts, je voudrais demander pour commencer s'il partage ce sentiment.
Cher Alain, j'ai vraiment tout à fait l'impression d'un Camus nouveau, mais c'est un Camus nouveau qui, me semble-t-il, est déjà présent, c'est-à-dire c'est un Camus anté-camusien. Le style qu'on retrouve dans le premier homme est à s'y méprendre, hein. Celui de noces. Vous avez vous-même d'ailleurs parlé dans votre présentation d'une présence physique au monde. Or, dans Noces, lui-même dit, au terme d'une expérience qu'on trouve dans le vent à Djemila, il dit « Oui, je suis présent. Je suis présent. » Et ce qui me frappe à cet instant, c'est que je ne peux pas aller plus loin. Et jamais, dit-il, je n'ai senti si avant mon détachement de moi-même et ma présence au monde. Et il a 20 ans quand il écrit ça. Et mon sentiment est que ça, avec d'autres schèmes, notamment le schème du désert, la difficulté d'un désert intime, il a commencé par l'amour et ensuite il a entamé l'amour du monde qui n'est pas là pour nous aimer mais qu'il faut aimer quand même. Et ensuite il a entamé, je crois, ce fameux cycle de l'absurde et de la révolte. Donc, le Camus du premier homme est inédit à sa manière parce qu'il donne enfin sa chance à une grâce à laquelle il a eu accès dans l'ingénuité de sa presque adolescence. En somme, il y a quelque chose là chez Camus d'antique qu'il entend retrouver de pré-socratique, si j'ose dire. C'est pour ça que je parlais d'anté-camusien.
Oui, c'est vrai, mais j'ai relu Noces, ouais. Et j'y vois quand même un certain sens de la formule, ouais. De la maxime. C'est le grand libertinage de la nature,
de la nature et de la mer, bien sûr, qui m'accapare tout entier.
Qui m'accaparait tout entier. Être pur, c'est retrouver cette partie de l'âme où devient sensible la parenté du monde. C'est presque déjà des citations.
C'est vrai.
Et il retrouve cette inspiration, mais dans une écriture tout à la fois plus modeste, est plus directement concrète et donc sensuelle. Il me semble que dans Noces, il y a encore un éloge abstrait du concret. Et dans le premier homme, Camus cesse complètement de faire le beau. D'ailleurs, je lirai un passage. La mer était douce, tiède, le soleil léger maintenant sur les têtes mouillées, et la gloire de la lumière emplissait ses jeunes corps d'une joie qui le faisait crier sans arrêt. Il régnait sur la vie et sur la mer, et ce que le monde peut donner de plus fastueux, il le recevait et en usait sans mesure, comme des seigneurs assurés de leur richesse irremplaçable.
Et oui, mais là encore, pardon, avoir grandi dans une misère que le soleil dépouillait de l'envie, alors bien sûr, c'est son credo dans L'Envers et l'Endroit, et dans la préface de L'Envers et l'Endroit, mais c'est ce qu'il met en œuvre dès l'été à Alger, dans Nos, quand il décrit le délice d'un corps, et aussi l'ambivalence du soleil. Ce qui est vrai, c'est que Nos a l'ingénuité d'un style naissant, et que le premier homme a, non pas l'ingénuité, mais l'inachèvement d'un livre naissant. Et que donc les deux peuvent, mais peut-être pour des motifs différents, des motifs qui tiennent à la jeunesse de Camus dans un cas, et des motifs qui tiennent à l'inachèvement fatal du livre dans l'autre, peut-être peut-on trouver, y a-t-il une communauté d'inachèvement dans les deux ? Reste que, quand on a le manuscrit du premier homme dans les mains, ce qui m'est arrivé déjà, j'ai eu cette chance, quand on le regarde, le manuscrit, et qu'on découvre les annotations de Camus, on observe une chose très étonnante, c'est qu'il y a des phrases dans ce manuscrit qui sont écrites d'une écriture parfaite, limpide. L'une d'elles, si vous me le permettez, je l'ai notée parce que je m'en souviens, il dit, c'est quand il est devant la tombe de son père, on va en parler, et qu'il découvre que son père est plus jeune que lui, il dit « Il n'était plus que ce cœur angoissé, avide de vivre, révolté contre l'ordre mortel du monde qu'il avait accompagné durant 40 années et qui battait toujours avec la même force, contre le mur qui le séparait du secret de toute vie, voulant aller plus loin au-delà, et savoir avant de mourir, savoir enfin pour être, une seule fois, une seule seconde, mais à jamais. » Et cette phrase parfaite est une phrase pour laquelle, dans le manuscrit, il a changé de stylo. C'est une phrase qu'on aurait pu trouver dans Nos. J'ai le sentiment, moi, que à chaque fois que son style véritablement parvient, que la maïeutique opère et qu'il trouve ses phrases, paradoxalement, il retrouve un élan dont il a, de son propre aveu, hein, d'ailleurs, la nostalgie à l'heure où il entame le premier homme.
Oui, vous êtes très convaincant, mais je reste pour ma part persuadé qu'il y a quelque chose, une modestie dans l'écriture qu'on ne trouvait pas dans ses premiers textes. Mais là où je vous rejoins, ouais, c'est que la thématique est la même.
Oui.
Et c'est une thématique absolument capitale.
Fondamentale.
Vous avez cité, en effet, la préface de L'Envers et l'Endroit. La misère m'empêcha de croire que tout est bon sous le soleil. Et dans l'histoire, le soleil m'apprit que l'histoire n'est pas tout.
Pas tout.
Et il dit, la pauvreté n'a jamais été un malheur pour moi, la lumière y répandait ses richesses.
Oui.
Et justement, cette richesse dans le dénuement l'a préservée de l'envie, vous le dites, du ressentiment. Donc même dans son engagement, il n'y avait aucun ressentiment.
Et c'est majeur, hein, cette histoire de nature.
Absolument.
Parce que c'est comme ça qu'on ne devient pas fou.
Voilà.
C'est en faisant valoir la nature par rapport à... Mais vous n'aviez pas fini, pardon.
Non, mais vous avez tout à fait raison. Et là, moi, j'ai une phrase de Camus à laquelle je reviens très souvent, que je trouve absolument magnifique, qui est au cœur de son débat philosophique, métaphysique,
avec
ontologique avec Sartre. Les Sartriens ne l'ont pas pris au sérieux. Il était incompétent, il était nul.
Le monde finit toujours par vaincre l'histoire.
Voilà. Et surtout, non, on ne vit pas que de lutte et de haine.
Ah oui.
On ne meurt pas toujours les armes à la main. Il y a l'histoire et il y a autre chose, le simple bonheur, la passion des êtres, la beauté naturelle.
C'est quand il
ça,
parle.
C'est tout Camus.
C'est tout
Camus. Il y a l'histoire et il y a autre chose.
C'est quand
il s'y tient.
C'est ce qu'il appelle le pain et la bruyère. Bien sûr. L'homme a besoin de pain, mais il a aussi besoin de la bruyère qui est le pain de son cœur. Et c'est un texte qu'il écrit contre ceux qui lui reprochent de parler du printemps, des fleurs, alors que les ouvriers souffrent et que la condition sociale est si tendue. Or, Camus est celui qui défend le droit aussi à la beauté pour les gens qui ont faim. C'est ce qui, d'ailleurs, c'est le malentendu sartrien. On a voulu le maintenir dans un éthos bourgeois imaginaire en ce qui concerne Camus, alors qu'en réalité, il concernait les sartriens eux-mêmes qui lui faisaient le reproche au fond d'être un paysan.
Sur ce point, d'ailleurs, il rejoint Orwell. Mm. Je me souviens d'un très beau texte de Orwell, Éloge du crapaud vulgaire, où il parle du printemps, du crapaud, et de tout ce que, effectivement, les militants jusqu'au boutistes lui reprochent d'aimer. Parce qu'on ne va pas se détourner des combats historiques pour admirer la nature. Et Orwell dit, oui, mais si on ne le fait pas, alors même les combats cessent de valoir quelque chose.
C'est ça qui est majeur. Parce que
oui,
c'est parce que derrière, on a la défense chez Camus de la révolte elle-même, qui, chez Camus, doit se vivre comme une intranquillité. La différence entre Sartre et Camus, elle est naturellement dans les remèdes qu'il propose. Sartre est plus... Le tabou de la violence chez Sartre a été allègrement franchi. Pas chez Camus. Mais la vraie différence, elle se fait dans le rapport qu'on entretient à sa propre action. C'est-à-dire que chez Camus, si la violence est nécessaire, par exemple un résistant, elle doit se vivre elle-même comme intranquille. La différence, ce qui l'oppose à son ami allemand dans les quatre lettres à un ami allemand, c'est précisément cela. C'est le fait de dire, la différence entre vous et moi, c'est pas que vous êtes l'Allemagne et que je suis la France, c'est que je suis la justice et vous êtes l'injustice, et que surtout, moi, je vais vous vaincre, mais je ne vivrai pas ça comme une victoire.
Oui, c'est vrai. Et puis, il y a aussi l'importance de la haine. On ne vit pas que de lutte et de haine. Ouais. Dans sa réponse terrible à Albert Camus, Sartre dit, et c'est vraiment le cœur de leur différend, toute la valeur qu'un opprimé peut avoir à ses propres yeux, il la met dans la haine qu'il porte à d'autres hommes. Donc, Sartre justifie la haine. Il n'y a rien au-delà de l'histoire. L'histoire, c'est la lutte. Il faut haïr l'ennemi. Camus dit, nous avons été obligés à la haine pendant l'occupation. Il faut tourner la page et il y revient sans cesse.
Mais en creux derrière ça, c'est une défense de l'universel chez Camus. Parce que dans la justification sartrienne de la haine, il y a aussi, par exemple, dans la préface à Orphée Noir, la validation chez Sartre d'un comportement qui serait dicté par une identité. Si vous êtes noir, vous êtes fondé à disposer d'un racisme antiraciste. C'est la première occurrence de cette expression, c'est Sartre qui l'invente. Ça veut dire que il y a aussi chez Sartre une validation d'un discours selon celui qui l'éprouve, alors que chez Camus, il y a la défense du droit qu'on a tous de parler de la misère et pas seulement ceux qui l'ont éprouvé.
Oui, alors Sartre répondrait que l'universel est à faire. Ouais. Ce qu'il reproche à Camus, c'est de croire que l'universel est déjà là. Mais il est à faire au travers de la lutte. Simplement, ce différend va au-delà de Sartre et de Camus. Je reviens, comme je vous l'ai dit souvent, à cette phrase de Camus, on ne vit pas que de lutte et de haine. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, tout est historique. Maintenant que la lutte n'est plus seulement sociale, mais qu'elle a gagné le sociétal, la nature n'existe pas, le genre a eu raison du sexe et donc de la différence des sexes, rien n'échappe à la lutte des dominants et des dominés, et on le voit tous les jours. Quel que soit le parti qu'on prend, la haine dans la sphère publique est omniprésente, c'est-à-dire que là, précisément, nous nous retrouvons au cœur de ce différend, et Camus a eu raison contre Sartre, mais on a l'impression que Sartre a eu raison de Camus.
C'est le sentiment qu'on peut avoir dans l'histoire. Le lectorat lui-même n'est pas du même avis, c'est toute la grande phrase de Camus. Hein. Il y a des gens formidables, ils auront des commentateurs, moi j'aurai des lecteurs, ce qui paraît-il est infâme. Donc c'est une victoire à la Pyrrhus de Sartre, hein, de ce point de vue, parce que Camus est quand même un lecteur mondial, alors que les gens bataillent encore avec les textes de Sartre, en tout cas certains d'entre eux. Un point, cher Alain, vous avez parlé de la nature et du genre. La nature chez Camus n'est pas normative. Il ne s'agit pas pour lui, par nature, d'entendre, par exemple, une normativité implicite dans des processus naturels. Genre, c'est comme ça qu'on fait les enfants, c'est comme ça qu'on doit se marier. Ça n'est pas tant le propos de Camus. Ce qu'il défend quand il défend la nature, c'est deux choses. C'est d'abord tout ce qui n'est pas historique, c'est-à-dire tout ce qui empêche l'homme de se prendre pour la solution. Pour une solution, donc c'est la pulsion, la tendance délétère à croire qu'on a la solution de l'histoire, donc la nature est un antidote à ça, et il défend aussi ce qu'il appelle le silence, qui est le silence de la mer, qui est le silence des choses, mais qui est aussi le fait que le silence, c'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence de langage, c'est-à-dire il défend l'inhumanité du monde, la non-humanité du monde, c'est un humanisme, Camus, qui se situe à hauteur d'homme, mais qui assume en même temps le fait que le monde ne soit pas là pour nous faire plaisir. Et donc, par nature, il entend aussi ce décalage qu'on trouve dans l'expérience de l'absurde, d'un type qui pose une question, la question du sens, et à qui c'est le silence qui répond. Donc, la nature est moins à prendre, je crois, au sens normatif du « tout se perd » et désormais le genre a noyé la nature ou a noyé la différence des sexes. C'est plutôt chez Camus, je crois, un éloge du silence face au vacarme et au cliquetis des armes et aux brutalités de l'histoire.
Vous êtes très malin, Raphaël Enthoven. Vous laissez pas entraîner par moi sur les chemins de la réaction.
Non, mais ce qui est génial avec Camus, cher Alain, vous l'observerez, c'est qu'on peut être pleinement camusien en adhérant à des options idéologiques très différentes.
Oui, mais ce qui me frappe dans L'homme révolté, c'est de voir Camus réhabiliter le concept de nature humaine. Et la nature humaine, il faut la défendre. Et il a très peur, justement, de l'idée que tout est historique, parce qu'elle conduit à une malléabilité complète de l'humain. Donc voilà, et c'est vraiment, on aura l'occasion d'en reparler tout de suite, le penseur des limites.
Tout à fait.
Ce que beaucoup ne lui pardonneront pas.
C'est un penseur apollinien.
Oui.
Très important chez Camus, la figure d'Apollon, c'est-à-dire en fait la figure du soleil, dont l'ambivalence est en elle-même une limite, puisque le soleil dore les corps, mais il les fait pourrir aussi. Donc c'est un penseur de la limite, il est apollinien, tout simplement parce que Apollon est celui qui porte en lui la douleur d'avoir tué Python. Donc il est le Dieu qui porte en lui la possibilité de l'excès et qui, faisant pénitence, introduit dans l'humanité tout ce qui produit de la limite, c'est-à-dire l'architecture, l'urbanisme, la musique, la littérature, etc., etc. Et Camus est très attaché à ça. On retrouve un écho de ça dans la parole du père, hein, un homme, ça s'empêche.
Ben voilà.
Ce qui est évidemment la même chose. Et là, je pense que nous serons en communion.
Oui, oui, nous serons en communion. Puis il y a cette phrase extraordinaire de l'exil d'Hélène. Némésis veille, déesse de la mesure, non de la vengeance. Tous ceux qui dépassent la limite sont par elle impitoyablement chassés.
Et
la sagesse des Grecs à laquelle il veut pouvoir revenir.
Alors attention, parce qu'il existe un dévoiement de cette sagesse qui est important pour nos auditeurs peut-être, qui est, il faut vraiment distinguer cette sagesse de la limite de la sagesse de Procuste, c'est-à-dire du nivellement que la mythologie grecque nous propose aussi. Procuste, pour mémoire, c'est l'aubergiste qui vous écartèle si vous êtes trop petit pour le lit, ou qui vous tranche si vous êtes trop grand. Et donc c'est une figure démocratique au sens le plus péjoratif du terme, c'est-à-dire c'est une figure de l'égalitarisation de tout être et de toute individualité. La limite dont parle Camus, c'est pas celle-là, évidemment. La limite dont parle Camus, c'est celle dont l'intuition nous est fournie par l'amour. Et c'est tout le paradoxe chez Camus. C'est l'amour qui est la figure de l'illimitation en lui, qui, parce que l'amour adhère au monde avant de le renier, avant de le rejeter, et que le refus est infini alors que l'amour est l'adhésion, elle est forcément pondérée, c'est l'amour qui nous donne l'intuition de la limite. Quand on dit oui à quelque chose, on doit en dessiner les contours. Quand on dit non, prenons les gilets jaunes. Un gilet jaune dit non, on peut coaliser des opinions disparates, on peut être anarchiste et royaliste et être dans le même camp et dire non à Macron parce que le non est infini. Si vous dites oui, vous êtes obligé de donner un contour à ce à quoi vous adhérez, et donc par l'amour, par la préséance de l'amour sur la haine, vous êtes contraint à la limite chez Camus. C'est ça qui est très beau.
Alors, venons-en maintenant à un personnage essentiel, paradoxalement essentiel, du premier homme, le père de Camus. Le père de celui qui est nommé dans le premier homme, Jacques Cormeris. Pourquoi paradoxalement ? Parce que Camus l'a perdu à l'âge de 1 an, donc il ne l'a pas connu.
Non, il l'a pas connu.
Et en même temps, son père est omniprésent, et il y a 2 occurrences qui m'ont particulièrement frappé. D'abord, un récit que fait Camus. Le père a assisté à une exécution.
Pierrette.
Ce Pierrette était un ouvrier agricole.
Un tueur d'enfants.
Qui a commis un crime abominable. Il a tué les enfants de ses maîtres. Donc, le père de Camus est allé assister à l'exécution. Il voulait voir cette punition exemplaire d'un crime qu'il avait indigné. Mais on ne sut jamais ce qui s'était passé. L'exécution avait eu lieu sans incident apparemment. Mais le père de Jacques était revenu livide, s'était couché, puis levé pour aller vomir plusieurs fois, puis recoucher. Il n'avait jamais voulu parler ensuite de ce qu'il avait vu.
C'est un texte majeur. Vous savez que ce texte, Alain, on le trouve également dans les réflexions sur la guillotine.
Voilà,
Présentais que vous alliez nous dire ça. Effectivement,
non.
Dans le corpus camusien, il y a 2 occurrences de ce moment incroyable où le père ne conteste pas les motifs de l'exécution de Pierrette. Chacun approuve le fait qu'un tueur d'enfants soit lui-même exécuté. Enfin, chacun l'approuve en son fort intérieur, si j'ose dire. Le père ne conteste pas ça, mais le spectacle le révulse. Et ce qui donne à Camus une ligne de conduite... Alors, c'est une histoire que sa mère lui a racontée en vérité. Et ça donne à Camus une ligne de conduite une façon de lutter contre la peine de mort qui est très intéressante. Ce n'est pas quelqu'un qui lutte contre la peine de mort par un argumentaire, c'est quelqu'un qui lutte contre la peine de mort par la monstration. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, dira-t-il. La citation n'est pas exactement celle-là. Mais surtout, il lutte contre la peine de mort en décrivant la guillotine. Voilà ce qu'on fait, voilà ce qui se passe. Et c'est de cette façon-là qu'il entend lutter. C'est beaucoup plus éloquent de le faire de cette manière-là que de le faire en déployant un argumentaire qui consiste à dire que la vie d'un assassin vaut plus que celle de sa victime.
Oui, mais surtout, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la fidélité de ce fils à un père qui n'avait jamais fait d'études et qu'il n'a pas connu. Donc, il inscrit ses pas dans les pas de son père.
Est-ce que vous m'autorisez, Alain,
un
petit détour par une psychanalyse de gare? Comme vous savez, Sartre, dans Les Mots, dit « Je souscris volontiers au verdict d'un éminent psychanalyste, je n'ai pas de surmoi. Je vois tous les gens avec leur père sur les épaules, etc. Moi, j'en ai pas, donc j'ai été plus libre qu'eux. » Aron, au début de ses mémoires, le premier chapitre de ses mémoires, c'est comme le testament de mon père, ça s'appelle, il se décrit comme la terre promise d'un Moïse qui aurait échoué en chemin, qui aurait échoué dans sa carrière universitaire. Aron disait lui-même « Je n'ai pas d'imagination ». Sartre lui-même n'avait aucune limite. Camus offre un rapport à la paternité qui est tout entier dans le passage du premier homme où Cormery se trouve devant la tombe de son père à Saint-Brieuc et où il constate que son père est mort à 29 ans alors que lui-même en a 40 déjà. Et autrement dit, Camus, c'est l'héritier d'un cadet. Et c'est là, c'est ça, le premier homme. On ne sait jamais dans le livre si le premier homme, c'est le père, ou c'est l'enfant qui naît dans une étable, ça s'invente pas quand même, dans une étable et dont les initiales sont J.C.
Oui, c'est vrai.
Bah, c'est le fils de l'homme. Hein.
Vous avez raison. C'est une belle démonstration analytique. Mais vous avez cité Sartre,
oui.
Et il était très important de le faire. Parce que je me souviens, comme tous les lecteurs des mots, de ce passage incroyable.
Début au début, au tout début.
Partiellement,
hein.
Il n'y a pas de bon père, c'est la règle. Qu'on n'en tienne pas grief aux hommes, mais au lien de paternité qui est pourri. Faire des enfants, rien de mieux. En avoir, quelle iniquité. Eût-il vécu, mon père se fût couché sur moi de tout son long et m'eût écrasé. Par chance, il est mort en bas âge. Au milieu des aînés qui portent sur le dos leur enchise, je passe d'une rive à l'autre, seul et détestant ces géniteurs invisibles, à cheval sur leur fils pour toute la vie. Et il termine en disant, d'après ce que un célèbre psychanalyste, il n'a pas de surmoi.
C'est Pontalis d'ailleurs, le psychanalyste en
oui,
question.
Oui, alors c'est très étrange.
Aîné, c'est aîné et E-N-E-E. Oui, hein, c'est le rescapé de Troie, c'est pas le frère aîné.
Non, ni le fils aîné. C'est aîné et enchise, mais... D'abord, c'est tout à fait extraordinaire parce que Sartre est celui qui, comme l'a écrit Octavio Paz, a dévoyé l'esprit critique de l'Europe en masochisme moralisateur. La culpabilité l'accablait de toutes parts. Mais une chose est sûre, il ne voulait pas avoir de dette. Il voulait, c'est son idée de la liberté, être l'auteur de lui-même.
C'est quand même incroyable que le même homme ait fait censurer ses propres pièces pendant les 10 années ou à peu près de son compagnonnage de route avec le Parti communiste. C'est quand même incroyable que cet homme-là ait substitué le surmoi paternel, si je veux dire, ou au surmoi paternel, une conscience aiguë de sa propre infâme classe et ait fait tous les efforts du monde, des efforts à côté desquels les efforts des blancs pénitents aujourd'hui pour défendre la cause des noirs, entre guillemets, sont pathétiques, si vous voulez, et qui s'entendent dire qu'ils ne sont que des blancs et que par conséquent ils sont illégitimes à parler. Je veux dire, la façon dont le Parti communiste a dit à Sartre que lui-même restait un bourgeois, quoi qu'il fît, était pathétique. Enfin, c'était le premier à qui une mésaventure de cet ordre-là est arrivée.
Oui, c'est vrai. La mauvaise conscience le travaillait, le tourmentait. La honte, d'ailleurs, il a dit la honte est un sentiment révolutionnaire. Mais précisément, il ne voulait acquitter aucune dette.
Oui.
C'est comme ça qu'il se sentait libre.
Oui, alors que Camus, c'est différent.
Camus dit... Je suis le premier homme parce que il sort de l'anonymat de la misère, il accède à la parole, les siens, il les appelle les muets, mais en même temps, en un autre sens, Sartre se voulait le premier homme. J'ai trouvé une magnifique phrase dans La révolte des masses d'Ortega y Gasset. L'homme n'est jamais un premier homme. Il ne peut commencer à vivre qu'à partir d'un certain passé accumulé. Voilà son seul trésor, son privilège, son signe. Camus vit à partir d'un certain passé accumulé et d'une certaine manière, sous la direction de ce père qu'il n'a pas connu. Sartre ne veut rien entendre. Il fait table rase dans sa propre famille être l'auteur de sa vie.
Et Camus est le premier à comprendre que pour être inaugural dans l'existence, c'est un lecteur d'Arendt, Camus, il faut pas oublier
exactement.
Ça. Et pour être inaugural, et j'ai même envie de dire qu'il était lecteur d'Arendt avant de l'avoir lu, parce qu'on trouve déjà des choses comme ça dans Nos. Pour être inaugural, Camus comprend, c'est ce qu'Arendt dit, il comprend qu'il est toujours précédé déjà d'un monde, et d'ailleurs, ce monde, entre guillemets, qu'il appelle nature, pour le coup, est précisément son garde-fou. C'est ce qui l'empêche de basculer dans la folie. Le sentiment qu'il n'est pas la source de tous ses actes. Il se sent déterminé. Et pourtant, il trouve le secret d'une parole originelle et originale à l'intérieur de cette reconnaissance-là. Et le paradoxe de Camus est complet. C'est en cela qu'il peut se dire le premier homme, tout en revendiquant une filiation. Il est le fils d'un homme plus jeune que lui. Il est le fils d'un cadet. Il a la charge. Il a la charge du passé comme de l'avenir. Et de ce point de vue, ce que Camus forge, je crois, c'est une définition de la responsabilité qui va bien au-delà du seul paradoxe « si t'es libre, t'es responsable de tes actes ». Non, chez Camus, ça va plus loin. La responsabilité, c'est la capacité à souffrir, même pour un cœur indifférent comme le sien. La capacité à souffrir des douleurs qui lui sont épargnées, à commencer par celle de son père qu'il n'a jamais connu.
Oui, et d'une certaine manière, il porte son père sur les épaules.
Et oui, bien sûr.
Et il le porte sur les épaules.
Mais il découvre qu'il le porte sur les épaules.
Oui,
c'est ça qui est beau. Il le découvre à Saint-Brieuc, devant la tombe.
Il le découvre
en découvrant qu'il a un homme plus jeune que lui derrière
voilà.
lui.
Et cet homme plus jeune que lui, il découvre aussi justement cet épisode que lui raconte à Alger son ancien directeur d'école, Monsieur Lévesque. C'était en 1905 au Maroc. Il combattait lui et son père dans les rangs de l'armée française. Une nuit, alors que leur détachement campait au sommet d'une petite colline gardée par un défilé rocheux, il découvre la sentinelle qu'il s'apprêtait à relever, la tête renversée, bizarrement tournée vers la lune. Il n'avait pas reconnu d'abord ce visage qui avait une forme étrange. Mais c'était tout simple, il avait été égorgé, et dans sa bouche, cette boursouflure livide était son sexe entier.
C'est là que le père dit...
Voilà, c'est là, il était hors de lui... Il a dit, ces gens-là ne sont pas des hommes.
Et il dit, là, c'est là qu'il dit un homme, ça s'empêche.
Oui. Et alors, Monsieur Lévesque est extraordinaire, parce que Monsieur Lévesque est mieux éduqué, directeur d'école, que le père de Camus. Il dit, oui, mais il fait son Lévi-Strauss. Le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. Il dit, pour eux, c'est ainsi que devaient agir les hommes, qu'on était chez eux et qu'ils usaient de tous les moyens. Puisqu'en plus, effectivement, il se défendait.
Mais la réponse du père est tout à fait camusienne.
Et oui, et justement.
Et c'est le cas de dire, d'ailleurs.
Cormery sort de ses gonds. Non, un homme, ça s'empêche. Voilà ce qu'est un homme, ou sinon. Non, un homme, ça s'empêche. Dans tous les cas, on ne peut pas relativiser. La barbarie, ça existe. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ce « un homme, ça s'empêche » pourrait servir d'exergue ou de devise à l'homme révolté.
Mais bien sûr.
Puisque l'homme révolté, c'est l'éloge tout à fait étonnant à la fois de la révolte et de la mesure.
On retrouve le paradoxe que j'énonçais tout à l'heure, qui est que la révolte chez Camus, bon, l'homme révolté, c'est un lieu commun de le dire, mais c'est tellement génial. L'homme révolté, c'est celui qui dit oui avant de dire non. Il faut savoir pourquoi on se révolte avant de se révolter. En amont de la révolte doit être portée par un amour. L'amour, chez Camus, c'est l'illimitation. Mais pourtant, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que la révolte soit portée par un amour impose à la révolte des limites et donc met la révolte en situation d'intranquillité permanente. En somme, le fait que la révolte soit portée par un amour empêche la révolte de basculer dans le conservatisme comme dans la révolution qui est un conservatisme renouvelé et qui plus est un massacre de masse. Donc l'enjeu, c'est de préserver l'intranquillité de la révolte par... Dire un homme, ça s'empêche. En toutes circonstances, c'est qu'un homme, ça n'est jamais tranquille.
Et effectivement, ça peut sortir de soi. Ça peut franchir les limites. Mais...
À moins qu'au cœur de la révolte dorme un consentement. Ce qui est la dernière phrase de Nos.
Effectivement, oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, ça, vous parliez d'Arendt, mais ça me rappelle Chesterton, qui dit, toute révolte contre le monde doit être précédé d'un serment d'allégeance cosmique.
Je ne connaissais pas cette phrase, mais on peut pas dire mieux.
Dans le même univers, mais alors il faut se souvenir de l'accueil de l'homme révolté dans la France de 1951. C'est pas seulement les communistes qui se sont divisés par cette critique justement des excès révolutionnaires, etc. C'est tout le monde.
C'est tout le monde.
C'est les progressistes et compagnie en route, mais aussi, et je dirais même surtout, les surréalistes, André Breton. Qu'est-ce que ce fantôme de révolte que Camus s'efforce d'accréditer et derrière quoi il s'abrite? Une révolte dans laquelle on aurait introduit la mesure, une révolte vidée de son contenu passionnel, que voulez-vous qu'il y reste? Je ne doute pas que beaucoup se laissent piper à cet artifice, on a gardé le mot et supprimé la chose.
Et qui se souvient
la mesure, c'est bourgeois.
Mais voilà. Et alors qu'il n'y a pas plus bourgeois qu'une position radicale. Voilà. C'est toute la leçon de l'homme révolté. Rien n'est plus confortable, et confort, il faut l'écrire en deux mots, rien n'est plus confortable qu'une position extrémiste, qu'une position radicale, puisque sa radicalité la dispense d'engagement dans la cité, c'est-à-dire la dispense des inconvénients de la réalité. Donc il n'y a pas plus confortable qu'une position radicale, il n'y a pas plus inconfortable, plus difficile, plus compliqué, plus douloureux, plus propice à l'insomnie, qu'une position intranquille, la position de l'homme à qui le monde entier vient en permanence poser d'énormes questions, comme dit Céline. Et ce diptyque est très important. Chez Camus, la mesure est le sommet de l'exigence éthique. Et d'ailleurs, c'est la malédiction de Camus. Quelle est la traduction politique de la fin de l'homme révolté, qui est si belle, la pensée de midi, où il montre vraiment que il parle de l'intransigeance exténuante de la mesure? Ben, la traduction politique de cette exigence, de cette radicalité de la mesure, on la trouve sous la forme social-démocrate du « oui d'accord, mais enfin tout de même ». Et ça, c'est une malédiction pour Camus, parce que c'est quelqu'un qui a donné à la mesure ses lettres de noblesse et d'exigence, et dont la traduction, c'est le compromis fadasse qu'on peut trouver dans une démocratie libérale, où on dit « oui d'accord, mais enfin tout de même ».
Oui, enfin, Rocard a eu cette phrase très belle, on ne traite pas en France le compromis avec la noblesse qu'il mérite.
Vous avez raison, c'est vrai. Mais là, par compromis, j'entendais plutôt cette façon qu'on a de produire une opinion avec laquelle on peut difficilement être en désaccord, si
oui,
vous
c'est
voulez.
Vrai, c'est
vous voyez, le oui d'accord, c'est enfin tout de même. Enfin tout de même, c'est oui d'accord l'économie de marché, mais enfin tout de même. Oui d'accord la guerre, oui d'accord le racisme, mais enfin tout de même. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui.
C'est plutôt cette pondération qui se vit avec délice comme une manière d'être dans le vrai, alors qu'en réalité on ne dit rien.
Mais cet éloge de la mesure est à mettre en résonance avec un épisode qu'en France on n'a pas compris, parce que on l'a aligné sur mai 68, je veux parler du printemps de Prague. Kundera a défini le printemps de Prague comme la révolte populaire des modérés. Et modérés a encore plus mauvaise presse que mesure. Mais il s'inscrit dans la même lignée. Révolte populaire des modérés, des gens qui en ont soupé de la radicalité, qui savent ce qu'elle peut donner.
C'était une révolte démocratique.
Oui.
C'était une révolte qui avait la sagesse de ne pas ajouter l'injustice à l'injustice en croyant corriger la première. C'était une révolte démocratique rarissime. Elle a été écrasée pour cette raison-là.
Exactement. Alors maintenant, je voudrais que nous en venions à un autre personnage du premier homme, inoubliable, qui est Monsieur Germain.
Ah oui.
Monsieur Germain, c'est Monsieur Bernard dans le premier homme, mais tout le monde sait que c'est l'Institut de Camus, celui à qui il a dédié son discours au Nobel, et qui nous dit des choses, il nous dit sur lui des choses absolument
bouleversantes,
extraordinaires, bouleversantes. Et notamment, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est d'abord, Monsieur Germain l'a fait accéder au monde de la culture, la sortie de la misère, mais ce n'était pas un homme pour qui l'école devait se vouer à la résorption des inégalités. C'était un homme intransigeant, c'était un homme vraiment qui avait un idéal d'excellence, et c'est comme ça, et par ça, que Camus a pu devenir tout ce qu'il pouvait.
C'est le pupille de la République.
C'est le pupille de la République.
C'est le pupille de la République.
Comme Péguy.
C'est vraiment le pupille de la République. Il a été sauvé. Enfin, sauvé. Il ne se vivait pas lui-même comme étant en péril, hein, parce qu'il faut bien comprendre que dans le récit qu'il fait, notamment dans le premier homme de son enfance, il y a beaucoup de misère, mais il n'y a pas un atome de misérabilisme.
Non, pas un atome.
Donc quand on dit sauvé, on a parfois l'impression que c'est d'une condition extrême qu'il a été sauvé. Non, il n'a pas été sauvé, il a été littéralement élevé. Élevé par cet homme qui avait repéré des capacités exceptionnelles chez cet enfant et qui a su, parce qu'il vivait dans l'amour, en convaincre sa mère et sa grand-mère. Oui, bien sûr, c'est un personnage majeur. On n'est pas loin du père avec Monsieur Germain, comme on n'est pas loin du père avec celui qui est incarné par le personnage de Malan ici, qui est avec Jean Grenier.
Oui.
De la même manière, qui a eu une influence plus tardive sur Camus, et différente aussi, qui n'était pas un humaniste, qui était plus bouddhiste qu'humaniste, mais qui a eu une belle influence sur Camus, et dont il parle comme d'un père choisi, à qui il a su être fidèle sans lui être identique.
Donc Camus ne manquait pas de pères, il se les a choisis.
Oui, il ne manquait pas de maîtres non plus. Non. D'ailleurs, dans la préface aux Îles, il dit, je crois que...
Il envie le jeune homme qui lira ce texte des années plus tard. J'ai été ce jeune homme.
Et il dit aussi que, par une sorte de fatalité, on ne voit que le rapport du maître et de l'esclave, alors qu'il y a aussi le rapport du maître et de l'élève, et que compte la gratitude. Et il marque sa gratitude à Jean Grenier, sa gratitude aussi à Monsieur Germain, qui lui a ouvert les portes de la culture. Et il y a un mot qui revient deux fois dans le premier homme, et qui m'a beaucoup frappé, pour les lectures imposées par Monsieur Germain, exotisme.
Eh oui.
Exotisme pour eux d'ailleurs de la France où il fait froid, où il neige.
Parce que l'exotisme c'est ça.
Oui.
L'exotisme c'est sont l'ailleurs. Les villes et leurs cliquetis. L'ailleurs, ce sont les villes occidentales pleines de mémoire.
Voilà.
Il va chercher l'exotisme là où précisément à Paris on ne le trouve pas. Donc pour lui, il faut bien comprendre que Paris et sa pègre, pour lui c'est l'exotisme. Camus est étranger à tout ça, littéralement.
Oui, il est étranger à tout ça, et il est heureux, justement, d'être transporté hors de son monde, d'aller loin. Donc ça va un peu à l'encontre de certains préceptes de la pédagogie moderne, qui veut que ce soit dans la culture jeune que l'on trouve son inspiration et ses textes, précisément pour ne pas trop dépayser les élèves. Le dépaysement est essentiel à son éducation, nous dit Camus. Et là, il se rapproche de Hegel, qui a été directeur de gymnase, directeur dans l'enseignement secondaire, et qui dit, oui, notre temps ne peut pas tout tirer de son propre fond, il ne peut pas forcément trouver son assise en lui-même, la jeunesse représente comme une chance de quitter son chez-soi et d'habiter avec Robinson une île lointaine. C'est une illusion nécessaire de devoir rechercher ce qu'il y a de la profondeur, d'abord dans la figure de l'éloignement.
Alors, c'est pour ça que vous parlez de dépaysement, je parlerai d'altération, d'assumer le devenir autre. Il y a implicitement chez Camus, qui n'avait pas la technicité philosophique de Sartre, donc on n'a pas la formalisation de ce que je vous dis, mais très clairement on y est, il y a chez Camus une critique du sujet cartésien. Ou plutôt, il y a une critique de la fausse clôture d'un sujet sur lui-même qui se prendrait pour l'origine de ses actes comme de ses pensées. Et cette critique passe par l'expérience de l'altération, par la découverte d'une altérité, notamment la langue théâtrale, mais également l'oubli de soi tel que certaines expériences mystiques le ménagent. Camus n'est jamais si près du monde que quand il est débarrassé de lui-même. Et il a cette phrase extraordinaire, il dit « Le désert est difficile ». Le désert est difficile, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il est difficile de trouver en soi, malgré tout le vacarme dont on a été composé, un silence suffisant pour se faire le réceptacle d'un monde autre, c'est-à-dire se faire le greffier de l'altérité qui nous entoure en somme. Et ça, pour le coup, c'est un projet qu'il partage avec Proust. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, sans sacraliser leurs sentiments, leurs sensations, ne voient aucun autre chemin que celui de la sensation pour retrouver le réel lui-même.
Oui, ça c'est vrai. Tout se fait par la sensation.
Tout se fait par la sensation, chez Camus comme chez Proust.
Tout se fait par la sensation.
Parce que c'est la modalité d'altération première, oui. Plus encore que le fait de voyager, ce qu'il a fait beaucoup. Hein.
Oui, mais là, à l'école, on ne voyage pas. Non. Simplement, à l'école, on trouve on lit et on trouve la profondeur dans la figure de l'éloignement, comme le dit magnifiquement Hegel.
Oui.
On sort de soi et on sort aussi, pour ce qui concerne aujourd'hui, on sort du temps présent,
c'est vrai.
Du dogmatisme du présent, du chauvinisme du présent.
Après, c'est vrai que Camus n'est pas un dialecticien. C'est-à-dire qu'il ne considère pas que la révolte a résolu l'absurdité et que l'amour va résoudre la révolte. Il trouve la révolte en approfondissant l'expérience de l'absurde et il trouve l'amour en approfondissant l'expérience de la révolte. Donc Camus, c'est plutôt de la spéléologie que de l'élévation, si vous voulez, son travail. Il n'y a pas de dialectique, il n'y a pas de négation des étapes précédentes. On ne sort jamais de Sisyphe. On ne va pas trouver une solution ni un sens à nos vies.
Non,
voilà.
On ne sort jamais de Sisyphe. Vous avez raison, mais vous avez raison de dire aussi qu'il y a chez Camus un amour du monde, et je renvoie les auditeurs à un petit texte dans l'été, qui est l'exil d'Hélène.
Oui, bien sûr.
Un texte qui pourrait servir de bréviaire à une écologie digne de ce nom, où il dit « Nous avons exilé la beauté, les Grecs ont pris les armes pour elle ». C'est Hélène, la guerre de Troie. Nous avons exilé la beauté.
Il faut bien comprendre que la beauté dont il parle, c'est une beauté plotinienne, hein, je veux le dire ici, et pardon, c'est pas un gros mot, mais c'est important. C'est une beauté qu'on ne peut pas résoudre par la géométrie. C'est une beauté qui ne peut pas faire l'objet de la science. La tradition dans laquelle il s'inscrit quand il dit ça, c'est Augustin, et c'est Plotin avant Augustin, c'est-à-dire c'est l'idée que la beauté ne peut pas être une affaire de symétrie. Le fameux argument de Plotin contre Platon, c'était de dire que si la beauté est symétrie, symétria, alors un visage symétrique serait beau. Or, il ne l'est pas, dit Plotin. Il y a une beauté du singulier, et c'est dans ce sillage que Camus s'inscrit pour penser la beauté. Et il dit, le monde est beau, et hors de lui, point de salut. Il peut penser la beauté sans la référer à une entité céleste. Il n'a pas besoin.
Il n'a pas besoin, mais la beauté est oubliée. J'en ai trouvé encore l'illustration dans les discussions sur la convention citoyenne à propos de l'écologie. Bon, je ne vais pas ici parler de...
Il n'est pas impossible qu'on soit d'accord pour une
des
fois.
Conditions, des conditions dans lesquelles ces citoyens parlent. Cette convention est-elle plus démocratique que l'Assemblée nationale? Ce n'est pas le problème. Mais par exemple, on a parlé des panneaux publicitaires. Et les citoyens, préoccupés avant tout par le bien-être, disent, il faut, sur les panneaux publicitaires, ajouter cette phrase, en avez-vous vraiment besoin? Mais personne n'a posé la question de l'enlaidissement, de la défiguration des paysages, des territoires, par les panneaux publicitaires eux-mêmes. Comme si la beauté n'était pas la question de l'écologie, alors que, dans son éloge de la limite, Camus met la beauté au cœur.
Tout à fait. Il met, c'est le Graal. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, cher Alain, c'est que vous-même êtes notoirement publiphobe, mais pour des motifs qui, à mon avis, n'ont rien à voir avec ceux qui sont invoqués, effectivement.
Voilà, c'est ça.
Vous critiquez la publicité au nom de la beauté, il la critique au nom du marché, ou au nom d'un rapport délétère à la croissance et à la consommation. Ce qu'on peut comprendre aussi.
Mais ce qu'on peut comprendre aussi, bien sûr. Et puis, c'est vrai, je veux dire, on ne peut pas... Une croissance infinie n'a pas de sens, il y a peut-être une absurdité.
Là encore, il faut de la mesure. Et là aussi, Camus peut être employé, justement, à l'appui d'une pondération des mécanismes, pondération, qu'elle soit l'effet d'un virus ou qu'elle soit l'effet de la sagesse collective, si vous voulez, mais une pondération de la violence des mécanismes marchands, effectivement, Camus est un excellent interlocuteur pour qui a ce désir-là.
Voilà. Alors, revenons une dernière fois au premier homme. Nous avons parlé du père, nous avons parlé de Monsieur Germain. Il est temps de parler d'un personnage vraiment central, ou de deux personnages, la mère et la grand-mère. Et la mère de Camus, qui est là, dans le livre, une mère handicapée, une mère qui est sourde depuis son enfance, qui donc est analphabète, qui vit un peu retirée en lui-même, et pour laquelle...
Qui est morte après lui.
Qui est morte après lui.
L'homme qui a commencé L'étranger par « Aujourd'hui, maman est morte »,
oui,
est mort avant sa mère.
Il est mort avant sa mort, elle est morte quelques mois après. Il avait pour elle une tendresse infinie qu'elle lui rendait sans lui rendre, puisqu'elle était en même temps immanente à elle-même et inaccessible.
Vous savez que dans le...
Et c'est un personnage...
Et vous savez que dans le premier homme, il y a même plus encore que ça. Vous avez raison. On a beaucoup parlé du premier homme. La figure, alors, le schème du premier homme apparaît de deux manières dans le premier homme. J.C., hein, né dans une étable. Bon, ça s'invente pas, effectivement. Mais il y a aussi Adam. Adam. C'est une figure adamique. Or, Adam, la figure d'Adam apparaît à deux reprises dans le premier homme. C'est l'oncle Émile. Ernest, Étienne, ça dépend parce que il a pas encore décidé du prénom. Donc, pour l'instant, on a les trois prénoms dans le manuscrit. Donc, parfois Émile, parfois Ernest, parfois Étienne. Qu'il compare à Adam, et surtout sa mère, Alain, a une pomme d'Adam. Ce qui est extraordinaire, c'est un passage extraordinaire, il l'embrasse le cou quand il va la voir, et il retrouve à ce moment-là sa pomme d'Adam. Je peux même vous retrouver le passage, c'est à la page 68 de l'édition de poche. Il dit, tandis qu'il respirait la douce odeur de sa peau, qui lui rappelait cet endroit sous la pomme d'Adam, entre les deux tendons jugulaires qu'il n'osait plus embrasser chez elle. Sa mère a une pomme d'Adam, c'est-à-dire que le schème du premier homme va jusque-là. Et c'est vrai que à l'origine, au départ de Camus, il y a un silence qui est le silence de sa mère, qui est un silence qui est une absence de parole, et qui est un silence qui n'entame pas l'amour. Au contraire, il est l'écrin d'un amour infini. Et l'articulation d'un amour illimité et d'un silence véritable, du silence d'une dame qui regarde son gamin courir sur les lattes de l'appartement de la rue Bellecour, l'articulation des deux... Et la nécessité corrélative de donner la parole aux gens qui, avec sa mère, se sont tus, c'est-à-dire les pauvres. Cette double vocation lui est venue de ces moments où, sous un soleil en fin de course, le petit Albert, ou le petit Jacques, ça dépend si on est dans le premier homme ou dans la vie de Camus, courait sur le parquet devant les yeux mutiques de sa mère.
Oui, c'est vrai. Et puis, il y a cette phrase qu'on a tant reprochée à Camus, mais qui prend sens quand on lit le premier homme. Cette phrase d'ailleurs qu'on a citée de manière...
Entre la justice et...
Entre la justice et ma mère...
C'est pas la bonne citation.
Alors, la bonne citation...
Vous l'avez là.
Camus a dit en réalité, en ce moment, on lance des bombes dans les
bus,
tramways
d'Alger. Dans les tramways, oui.
Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est cela la justice, je préfère ma mère. Ce qui veut dire que ce n'est pas la justice.
C'est précisément, alors voilà, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, en fait, quand on prend cette phrase en entier, cette phrase a été synthétisée par un journaliste sartrien qui a voulu ramasser voilà. les paroles de Camus et qui en a fait un petit bourge qui préfère sa petite maman à la justice du monde. Or, Camus dit exactement le contraire. Il dit que si la justice, c'est de mettre en danger quelqu'un d'aussi inoffensif et innocent que sa mère, alors il préfère sa mère à la justice parce que c'est au nom de la justice qu'il préfère sa mère à la justice. Si la justice, c'est ça.
Oui, une espèce de justice dont il parle d'ailleurs dans L'homme révolté. Qu'est-ce qui arrive quand, au nom de la révolte, justement, on en est amené à commettre des crimes et à s'acharner sur des innocents?
C'est là que Camus a lu Montaigne, hein. Il se souvient que derrière la matière d'un discours, il y a la manière. Et qu'un discours, si noble soit-il, quand il est mu par des comportements qui en eux-mêmes disent le contraire, alors ce discours est disqualifié.
Ce discours est disqualifié, mais aussi on comprend mieux, à lire le premier homme, Raphaël Enthoven, la position de Camus, qui lui était tant reproché aussi, pendant la guerre d'Algérie. Ouais. Il n'a pas pris parti pour l'indépendance, il était déchiré, il rêvait d'une autre solution, peut-être utopique, mais il n'avait pas en lui, et ne pouvait pas l'avoir, la culpabilité du colon. Moi, n'était pas, justement, il n'y avait pas de privilège chez Camus. C'était un pauvre parmi les plus pauvres. Et ça compte énormément.
C'est très important. Et il disait même que la pauvreté des gens jetait un interdit sur la misère du monde, dit-il en parlant des champs qui émanent des collines de Tizi Ouzou. Donc, il a la conscience de ça. Mais dans la description qu'il propose de l'Algérie, si vous voulez, l'incapacité de Camus de choisir un camp, est à mon avis plus qu'une infirmité, ça devrait être une référence. C'est un modèle de comportement. On a parlé tout à l'heure d'une révolte qui se vivait comme intranquille. Comment ne pas être intranquille face à un conflit comme la guerre d'Algérie, ou comment ne pas être intranquille aujourd'hui face à un conflit comme le conflit israélo-palestinien? Un Camusien face au conflit israélo-palestinien se retrouve déchiré de la même manière. Il est déchiré de la même manière parce que aucune solution ne se présente tranquillement comme... Aucune solution historique ne se présente à lui tranquillement. Il ne peut pas adhérer à une solution définitive. Et je trouve qu'il y a dans cette dislocation, dans cette incapacité à être con, en fait, c'est-à-dire à adhérer à un camp ou à penser avec la moitié du cerveau, quelque chose qui est vraiment pour le coup de l'ordre d'une éthique du comportement face à des conflits tragiques, c'est-à-dire insolubles.
Conflits tragiques, insolubles, et c'est un autre contentieux de Camus avec l'histoire, au siècle de la consécration de l'histoire, parce que l'histoire surimpose à la réalité un récit forcément simplificateur. Alain Badiou a dit que le XXe siècle était marqué par le chiffre 2, et c'est bien le problème. Il y a le colon et le colonisé, il y a aujourd'hui le dominant et les dominés, et le dominé, ces deux figures qui sont des personnages, en quelque sorte, mais des personnages conceptuels, absorbent la pluralité humaine, et Camus ne pouvait se reconnaître ni dans l'une ni dans l'autre, et les muets qui le fait accéder à la lumière, et bien les muets, justement, on ne peut pas les ranger parmi les dominants. Ça n'a pas de sens.
Ni par les dominants, ni par les dominés, ni leur attribuer des opinions qu'on déduirait de leur situation sociale. Voilà. Camus est le premier aussi à lutter contre cette idée-là, c'est-à-dire à défendre la possibilité que les individus n'aient pas forcément les opinions de leur classe. Il est l'un de ceux qui le défend le plus éloquemment. Donc effectivement, il y a cette ambition. Mais c'est là que Camus est un véritable humaniste. C'est à cet endroit-là. C'est-à-dire que, encore une fois, l'humanisme de Camus n'est pas de nier la misère, il est de nier ou de refuser le fantasme d'une résolution définitive de la misère, car un tel fantasme augmente la misère et la violence qu'il prétend abolir.
Oui, vous avez raison. Camus est un humaniste, c'est d'ailleurs ce qu'on lui a beaucoup reproché.
Oui, mais pas au sens abstrait qu'on veut donner à cette phrase.
Oui, c'est vrai, mais la raison...
C'est pas un bien-pensant, si vous voulez, c'est un humaniste mal-pensant.
Non, c'est... oui, vous avez raison, c'est un humaniste mal-pensant, mais enfin, il a été très longtemps traité avec condescendance. Je me souviens du livre de Jean-Jacques Brochier.
Philosophe pour classe terminale.
Philosophe pour classe terminale.
Ce qui est sympa, en fait. C'est rare d'être un bon philosophe pour classe terminale. Il faut pouvoir être compris par des élèves de terminale. Pardon.
Mais il voulait pas être sympa.
Non.
Cette condescendance a commencé avec l'article.
Avec Sartre, qui lui dit ne lisez pas L'être et le néant, c'est trop compliqué pour vous.
Oui, c'est ça. Et ça a continué depuis. D'ailleurs, moi-même, quand j'étais en classe terminale et en hippocampe.
Vous disiez Camus, c'est pas sérieux.
Oui, enfin, en tout cas, mes condisciples. Le « Qu'en dira-t-on des Cagneux traitait Camus par le mépris.
Mais Camus a été victime du snobisme, tout simplement.
Alors, d'ailleurs, Sartre, à l'époque, en 68-69, aussi était victime du snobisme. Je me souviens, quand il est allé sur une tribune à la Sorbonne, les étudiants qui étaient au premier rang disaient « Quelle angoisse, quelle angoisse, quelle angoisse !» C'était un papy, Sartre, parce que maintenant, il y avait d'autres maîtres à penser, etc. Mais de Camus, on n'osait pas parler, parce que... Voilà, mais alors, vous dites humaniste. On lui reprochait son humanisme, mais justement...
Je vous dis en quel sens je le dis.
C'est très intéressant, ouais. Parce que Camus est un humaniste qui refuse en même temps, très fort, que l'homme prenne toute la place.
Justement.
Il y a la place pour autre chose que l'homme.
C'est un, vous savez, je vais vous dire...
Pour les grillons, par exemple.
Pour les bruits qui ne sont pas des paroles, et l'attention qu'on doit porter aux bruits qui ne sont pas des paroles... Un mot là-dessus, l'humanisme de Camus fait l'économie de la morale. Il dit toujours, ce que je sais de la morale, je l'ai appris sur un terrain de foot. Mais dans le même temps, c'est aucune morale immanente. On met un coup de boule quand un type insulte votre sœur, si vous voulez. En gros, voilà, c'est ça la morale de Camus. Mais derrière ça, il y a plus que ça, il y a l'ambition chez Camus d'extraire une morale d'un ciel vide. Et en cela... C'est un humaniste majeur. Voilà, il n'a pas renoncé à tirer une morale d'un ciel dont il assume la vacuité.
Très bien. En tout cas, aujourd'hui, est-ce qu'on peut tirer une morale d'un match de foot?
Lisez Camus. D'un match de foot, ça c'est une autre histoire.
Aujourd'hui. Mais je me souviens très bien de cette phrase de Camus. Merci beaucoup.
Merci
Raphaël
à vous,
Entoven. Je rappelle donc que nous avons parlé du premier homme de Camus et le livre est disponible en folio. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard, François Connac, Jean-Guinin Meige, Éric Audra. Merci à Jean-Marc Clauss pour la coordination. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet. La semaine prochaine commenceront les rediffusions d'été. La première sera l'émission sur le cinéma de Woody Allen.